Et à 16h52, nous allons entendre une autre doctorante aujourd'hui. Comme tous les mercredis, hein, nous recevons en fin d'émission un ou jeune scientifique qui vient nous parler de ses travaux de recherche. Aujourd'hui, c'est Hélène Krieger-Denoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en dernière année de thèse au laboratoire UTRPP à l'école doctorale Erasme et l'université Paris 13, Sorbonne, Paris Cité. Bienvenue à la recherche Montre en main. C'est à vous et approchez-vous un tout petit peu du micro.
Très bien. Alors, mon travail de recherche, il est articulé autour de la problématique des liens entre narcissisme et addiction. Et ce travail de recherche, il est indissociable de ma pratique clinique, hein, en addictologie, maintenant depuis une petite dizaine d'années, avec des patients qui présentent donc une dépendance pathologique. Alors, la clinique de l'addiction, elle vient interroger en premier lieu, il me semble, hein, le dispositif psychothérapeutique du clinicien, ses outils, sa technique, ses références théoriques. Et il vient l'inviter à penser une clinique qui relève, et c'est mon hypothèse de travail, d'une clinique du paradoxe. Alors, si l'économie addictive, elle est souvent perçue dans sa seule dimension d'autodestructivité, elle relève également d'une tentative de restauration du narcissisme du sujet. C'est-à-dire qu'on pense souvent qu'en s'adonnant à tel ou tel comportement addictif, la personne souhaite uniquement se détruire, alors qu'en écoutant ses patients, finalement, on s'aperçoit que ce comportement leur procure également un intense sentiment d'exister. Alors, à l'origine, ce sentiment d'exister, il prend racine au fondement de notre narcissisme. Alors, le narcissisme, entendu par exemple, hein, comme une enveloppe psychique primitive, il se constitue dans la relation mère-bébé, c'est-à-dire dans un temps où le petit être humain se trouve dans un état de dépendance absolue à l'égard de son environnement. Alors, tant évidemment du point de vue de la satisfaction de ses besoins physiologiques que... évidemment, la satisfaction des besoins affectifs, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait dire à Winnicott qu'un bébé, ça n'existe pas. Parce qu'un bébé, sans son environnement, ça meurt, tout simplement. Voilà. Et c'est dans cette relation primitive, finalement, que l'enfant pourra créer un espace psychique, une enveloppe qui va être apte à contenir ses états affectifs et constituer donc les fondements narcissiques qui pourront lui assurer un espace psychique où le conflit oedipien, notamment dans la perspective freudienne, viendra s'épanouir. Alors toutefois, il m'a semblé que chez le sujet addicté, c'est ce registre des fondements narcissiques qui se voit pris en charge par l'addiction. C'est-à-dire que l'agir addictif vient pallier un défaut fondamental dans l'organisation psychique du sujet. Alors chez ces personnes, l'espace de sécurité interne n'est pas suffisamment assuré. Et pour combler ce défaut, pour se rassurer, le sujet viendra puiser dans les sensations corporelles qui sont mises en œuvre dans à peu près toutes les addictions. Ainsi, donc, ce sont les sensations corporelles qui viennent tenter de... remplacer l'activité psychique. C'est-à-dire que finalement, à partir du corps, on va essayer de créer quelque chose qui ressemble à de l'âme. Mmh. Alors on est confronté ici à un mécanisme psychique qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'en attaquant l'espace de pensée, hein, en ayant recours à l'excitation, aux sensations corporelles, le sujet parvient à créer quelque chose de cet espace de pensée. Il va avoir recours à des agirs producteurs de sensations qui visent à lui procurer une enveloppe narcissique qui est éphémère, mais toujours reproductible et contrôlable via la répétition du comportement addictif. Alors on a vu que les fondements narcissiques du sujet prenaient corps dans l'état de dépendance vitale du bébé à l'égard de son environnement. Et justement, le sujet addicté, lui, vit dans le déni de cet état de dépendance à l'autre qui est constitutif de notre être. C'est-à-dire que le sujet addicté, en s'adonnant à son addiction, et donc finalement en devenant dépendant, pour un observateur extérieur, a l'illusion, lui, paradoxalement, de façon interne, de vivre en toute indépendance, hors de toute relation à autrui. En fait, le sujet addicté, finalement, il a besoin de personne. Et souvent, il revendique qu'on accepte son comportement en disant « mais tant que je fais de mal à personne, finalement, ça regarde que moi ». Et d'ailleurs, la plupart du temps, le sujet n'est pas dépendant puisqu'il arrête quand il veut. Alors évidemment, c'est pas tout à fait le cas. Et c'est souvent sur une pression externe que le sujet accepte de venir consulter. Alors cette demande des patients vis-à-vis du psychologue, elle est-elle aussi paradoxale? On peut la formuler ainsi. Donc aidez-moi à me passer de ce dont je sais ne pas pouvoir me passer. Et cette demande, elle est accompagnée d'un autre questionnement, à savoir le lien à l'autre peut-il s'avérer digne de confiance? Et un questionnement qui est assorti d'un défi souvent lancé aux cliniciens, saurez-vous être pour moi aussi fiable que mon produit? Alors ce dernier défi, cette première provocation, sans confronter d'emblée le clinicien aux limites fondatrices de son activité thérapeutique et à son propre narcissisme. Là, on passe d'une clinique du paradoxe finalement à une clinique des limites. Comment est-ce que la parole dans la relation psychologue-patient peut rivaliser avec la satisfaction immédiate qui est procurée par l'agir addictif? Comment est-ce que la relation psychothérapeutique qui n'est faite que de paroles classiquement, est-ce qu'elle peut s'établir, cette relation de confiance, et quelle est la spécificité du transfert à l'œuvre dans cette relation thérapeutique? Et donc on voit finalement que d'une clinique du paradoxe, on passe à une clinique des limites, et on vient interroger finalement des concepts qui sont pas encore tout à fait définis hein, au niveau scientifique, l'affect, le sensoriel, le corporel, et bien sûr les limites psychiques du clinicien chercheur, dont j'espère qu'elles vont être fécondes.